11h midi, Animag, Bruno Soriano.
Bienvenue dans Animag, votre émission animalière. Aujourd'hui, je reçois Éric Vissouz. On va parler des loups, une espèce peut-être menacée, une espèce qui fait peur. On va tout découvrir sur le mode de vie du loup. A tout de suite dans Animag. Éric Vissouz, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un passionné de nature, un passionné de loups, et on va faire une émission sur les traces des loups et sur la nature. Si vous deviez vous définir, Éric, qui est Éric Vissouz au niveau de la profession?
Je suis d'abord accompagnateur en montagne.
Oui.
Et je travaille aussi pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans le département des Alpes de Haute-Provence. Par rapport aux loups, les constats de dommages sur les troupeaux domestiques et le suivi aussi.
Alors, c'est quoi on va le faire dans l'ordre, c'est quoi un accompagnateur de montagne? Quelle est la différence avec un guide, par exemple?
Il y a le guide de haute montagne qui, lui, fait entre autres de l'escalade, du ski de randonnée, disons que c'est assez sportif et assez engagé, alors que l'accompagnateur en montagne reste à pied, à raquette aussi, mais c'est toujours à pied, sans cordée, sans piolet. Ça peut être dans des milieux plus ou moins difficiles, mais ce n'est que de la marche avant tout.
Voilà, c'est que de la marche, mais c'est déjà pas mal. Alors, depuis toujours, vous avez pratiqué ce métier, ou c'est quelque chose qui vous est venu un petit peu plus sur le tard?
Oh, ça fait une vingtaine d'années que je pratique, et bon, ça m'est venu, après pas mal de d'autres activités, par rapport au fait que c'était ce qui permettait de rester en montagne, entre autres, hein, d'habiter en montagne. C'était une activité qui pouvait aider à cela. Et donc, petit à petit, j'y suis venu, je me suis formé, et voilà.
Mais vous êtes, à la base, vous avez toujours été un amoureux de la nature?
Ah oui, ça c'est sûr. c'est la première chose, hein,
C'est dans vos gènes, quoi.
Il faut d'abord aimer la nature, et puis ensuite il faut aimer les échanges avec les gens.
Et oui, parce que vous emmenez donc des groupes des fois dans la montagne. Et puis on va y venir tout au long de l'émission. Vous avez une grande passion pour la nature, pour les animaux, et plus particulièrement pour le loup.
Oui, alors ici je me trouve donc au niveau du massif des Monges dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est le premier endroit, après le Mercantour, le parc national du Mercantour, où les loups sont arrivés officiellement en 92. Et ça a été le premier endroit, après le Mercantour, où le loup a été reconnu comme se trouvant sur un territoire, étant présent d'une manière plus ou moins permanente.
Et bien, comment vous est venue cette passion? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui décrient le loup, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il n'y ait plus de loup en France. Comment vous, au contraire, vous êtes venu cette passion pour le protéger, pour le réintroduire, pour l'aider, quoi?
Réintroduire, non. Non, on ne peut pas parler de réintroduction. Hein, il bouge tout seul, le loup. Il est venu de l'Italie, où il est protégé depuis les années 30 avec le parc national des Abruzzes, qui a été le premier parc national européen qui a été fait pour protéger les derniers loups, lynx et ours italiens. Et alors depuis, le loup s'est multiplié, a commencé à partir un peu partout, aux alentours en tout cas des Abruzzes, et puis est allé de plus en plus loin, et a fini par arriver dans les Alpes, et puis maintenant il est en France, et il va de la même façon de plus en plus loin, et il n'est pas seulement dans les montagnes des Alpes. Et donc, moi au départ, ça m'intéressait beaucoup de m'occuper un peu du loup. J'étais assez content de savoir qu'il revenait dans nos régions, et je m'y suis intéressé déjà donc dès le départ, dès que on a commencé à parler un peu de loup. Ensuite, il est arrivé dans nos montagnes. Et tout de suite, je suis allé trouver des indices de présence, faire du suivi par moi-même. Hein, et Et puis, bah, petit à petit, je m'y suis de plus en plus intéressé, d'autant plus que je connais des éleveurs. J'ai un ami, entre autres, qui est éleveur, et puis je connais tous les éleveurs du coin. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes qui commençaient à être de plus en plus gênants. Et je m'y suis d'autant plus intéressé. Et c'est là que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage m'a contacté pour faire du suivi. Voilà, et par la suite, ça c'était il y a une bonne dizaine d'années. Par la suite, ils m'ont demandé si je pouvais faire des constats de dommages sur les troupeaux domestiques. Et puis, bon, ben, j'ai accepté et depuis, ben, je continue.
Alors, quand vous parlez d'office de la chasse, vous n'êtes pas un chasseur, vous n'allez pas chasser le loup, hein, c'est juste que vous travaillez.
Non, non.
Non, mais c'est important de le préciser parce que pour les gens qui nous écoutent, qui sont en général des passionnés et des amoureux des animaux, qu'ils confondent pas, c'est vous travaillez justement pour essayer de que ça se passe bien avec le loup, la nature, les éleveurs, c'est ça en fait, hein.
Voilà, ben que ça surtout pour voir comment ça se passe. Exactement. Et bon, au départ, j'étais tout à fait comme je disais, ça me plaisait de savoir que le loup revenait. Puis face aux problèmes qui se sont trouvés de plus en plus importants et de plus en plus dispersés, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça. Donc voilà, moi ma situation maintenant, c'est avant tout d'être le témoin de ce qui se passe.
Oui.
Pour rendre la réalité sur le terrain, qui est mal connue en général, parce que il faut vraiment être sur le terrain, savoir vraiment comment ça se passe, connaître l'élevage, la montagne et la nature, enfin la faune, pour bien apprécier tout ça, quoi, savoir le rendre d'une manière le plus objective possible, quoi, en tout cas.
Voilà. Et aujourd'hui, avant de passer à la seconde partie de notre émission Animag, est-ce qu'on peut dire que le loup peut vivre sans aucun problème sur le territoire, sans manger toutes les brebis, sans manger les enfants et sans dévaster toutes les cultures?
Bon, on peut pas parler de dévastation, ça c'est certain. Par rapport à l'élevage, ça a toujours été un problème, et ça le sera toujours, à mon avis, d'une manière ou d'une autre. C'est assez incompatible, hein. Un prédateur et des bêtes domestiques, en général, ça fait pas très bon ménage. Et maintenant, bah, il va falloir que les moyens de protection qui sont déjà pris depuis pas mal de temps par la plupart, en tout cas dans les montagnes, soient de plus en plus efficaces. Il va falloir que on prenne certaines mesures pour vraiment éliminer le plus possible les problèmes, mais c'est certain qu'il y en aura toujours.
Mais c'est pas très... On va pas trop se réjouir, alors ça veut dire qu'il y aura toujours des pour et des contre le loup ?
Ça c'est probable, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est éleveur, on a quelques bêtes, on s'en occupe, surtout parmi les petits éleveurs, je parle pas des grands éleveurs, mais je parle vraiment des petits éleveurs les plus traditionnels, les plus proches de la nature, parce qu'il y en a encore, en particulier en montagne. Eh bien, quand on a quelques bêtes et qu'on les soigne, en général, on le fait parce qu'on les aime aussi. Mais le fait de les voir attaquer, tuer, blesser, stressés par les prédateurs qui peuvent se trouver dans le coin, on n'a qu'une envie, c'est d'éviter ça, de les défendre.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie d'Animag. On va voir un petit peu le mode de vie du loup, comment le loup vit aujourd'hui avec nous. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie d'Animag. Ce Seconde partie d'Animag aujourd'hui avec Éric Vizouz et surtout avec nos amis les loups et la nature en général. Donc on était en train de voir que le loup, tant qu'il sera là, et heureusement qu'il est là, il risque potentiellement d'avoir des problèmes, parce que c'est quand même un animal sauvage. Est-ce que Éric, vous pourriez nous décrire un petit peu le mode de vie des loups, ce qu'on trouve en France? Est-ce qu'il y a différents types de loups? Comment ça vit? Qu'est-ce que ça mange? Quel est l'intérêt d'avoir des loups?
Alors,
c'est beaucoup de questions, hein, je sais.
C'est assez vaste comme question. L'intérêt d'avoir des loups, c'est par rapport à la biodiversité. Et dans cette biodiversité, il faut inclure l'être humain, surtout dans nos pays très civilisés. Par rapport à son mode de vie, alors c'est un animal qui vit en meute, c'est-à-dire qu'une meute, ça, c'est à partir de deux individus, c'est-à-dire un mâle et une femelle dominant, alpha on dit,
oui,
qui se retrouvent sur un territoire et qui vont avoir des petits. D'autres loups peuvent aussi se joindre à ces deux dominants à partir du moment où ce ne sont pas des dominants. Mais donc en général, c'est le couple dominant, puis ensuite les petits. Parmi les petits, il y en a quatre à six en moyenne par an, en une portée. Et d'ailleurs, ça va être là maintenant, les naissances, là, dans les jours qui viennent, vers la mi-mai en général. Et donc sur les 4 à 6, il y en a à peu près la moitié qui survivent.
Oui.
Et donc l'année suivante, on se retrouve avec une meute qui peut faire 3-4 individus sans problème. Et là-dessus, il va y avoir peut-être des dominants parmi les petits. Alors ceux-là, ils vont partir vers l'âge d'un an. La meute va grandir jusqu'au nombre d'animaux qui correspondent au territoire.
D'accord.
C'est-à-dire que dans nos pays, c'est 8 individus. En général, c'est pas plus que ça. Sur un territoire de meute, un territoire, c'est grand. Hein. Ça va dans nos montagnes, ça va jusqu'à 350 km carrés. Donc, il y a 6 ou 8 individus maximum et que c'est la taille de la meute, tous les individus supplémentaires vont partir. En tout cas, certains vont partir. Il va y avoir un remue-ménage dans la meute qui fait qu'elle n'aura jamais plus du nombre de membres d'individus qui correspond au territoire. Ça, c'est par rapport à la gestion du territoire qui est très importante. Ils vont bouger comme ils le font là en ce moment, en particulier là au printemps. Et ils vont de plus en plus loin, on en trouve maintenant jusque dans les Vosges. Bon, il y en a très peu, hein. Il y en a un ou deux individus comme ça qu'on a pu voir. Mais jusque dans les Vosges, des loups italiens donc, hein. Ce sont tous des loups italiens. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres loups qui ont un autre gène que celui du loup italien. Et c'est assez facile à voir quand on analyse, c'est que le loup italien est vraiment, c'est coupé de toutes les autres meutes ailleurs, en Europe centrale, et donc on les reconnaît très facilement au niveau de leur gène.
Et comment on les reconnaît physiquement? Est-ce qu'ils ont une particularité physique, ces loups italiens?
Ben ce sont des loups de forêt, ce sont des petits loups de forêt. Qui se sont coupés de tous les autres loups ailleurs, hein, en Europe, en particulier parce que la France avait tout supprimé. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les loups espagnols, on peut les reconnaître très facilement, mais aussi les loups d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, où il y a beaucoup plus de loups par là-bas, ce sont des loups qui sont un peu plus gros que ceux qui viennent d'Italie. Mais enfin, la guerre, hein, ça se ressemble beaucoup. Ce sont pas des gros loups du nord américain, par exemple.
D'accord. Alors aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a combien de loups en France? Est-ce qu'on sait combien il y a de loups en France aujourd'hui?
Ouais, alors, c'est assez difficile à dire comme ça, parce que ce n'est qu'une estimation, évidemment. On sait qu'il y en a pratiquement sur un peu moins de 200 actuellement en France.
Un peu moins de 200 en France de loups.
Un peu moins de 200, dont près de 80 dans 27 zones de présence permanente. Donc ça, des
ça,
territoires.
Ça veut dire quoi, ça?
Ce sont les territoires où on est sûr que qu'il y a une meute.
Voilà. Et à quoi on voit qu'il y a une meute?
Environ 27.
À quoi on voit qu'il y a une meute? C'est-à-dire que on les voit, où il y a des traces, où on les a.
Et voilà, on, en fonction des indices, en fonction justement du travail auquel je participe, on se rend compte que il y a une meute parce qu'on les voit effectivement. On peut les voir, c'est rare, mais on peut quand même les voir. Parfois, on peut surtout relever des indices. Et on recoupe tous les indices qu'on peut trouver, et on finit par savoir s'il y a une meute sur un territoire, connaître à peu près les limites du territoire, mais ça c'est très difficile aussi parce que c'est très vaste. Et donc voilà, c'est à peu près les chiffres, ce sont les chiffres de l'année 2012, là, hein, un peu moins de 200 loups de sûr, et 80 environ dans 27 zones de présence permanente.
Alors, mais les loups, ils sont pas pucés, ils ont pas un collier pour les repérer, pour voir leurs traces. Ils sont vraiment en liberté, quoi.
Ce sont des loups sauvages.
Des loups sauvages.
Et il y en a certains qui ont été pucés, notamment là dans le Mercantour, parce que ce sont des loups qui étaient blessés pour une raison pour une autre, qui ont pu être soignés, récupérés, et en même temps on leur a mis une puce, donc. Et d'autres loups, c'est arrivé aussi l'an dernier, on les endort avec une cartouche hypodermique, là, et on leur met une puce. Donc là, il y en a, à ma connaissance, il y en a deux qui sont pucés actuellement.
Et on arrive à les suivre. On arrive à les suivre, on arrive à savoir où ils vont.
Ah, dans ces cas-là, oui, on les suit très bien. Hein.
Est-ce que c'est dangereux, le loup? Est-ce que si on croise un loup, est-ce que déjà on a des chances d'en croiser un nez à nez? Donc du coup, une meute, puisqu'il n'est pas tout seul. Est-ce que ça peut être dangereux pour l'homme ou pas du tout? On va peut-être enlever un tabou.
Déjà, ce sera très difficile de les croiser, parce qu'ils ont peur plus que tout de l'être humain. C'est leur seul ennemi, en fait. Donc, dès qu'ils sentent la présence des êtres humains, en général, ils fuient. Et ceci dit, les bergers en voient de plus en plus parce qu'ils se sont habitués à la situation où on a beaucoup de moutons dans les alpages en particulier. Et comme ils ont des problèmes pour attaquer la nuit, alors qu'avant, au départ, ils attaquaient surtout la nuit, mais depuis, les troupeaux ont été mis dans des parcs électrifiés la nuit avec des chiens de protection. Donc, ils ont beaucoup de mal à attaquer pendant la nuit, et maintenant, les loups attaquent pendant la journée, plutôt.
Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer.
Bergers les voient de plus en plus.
Je vous propose de marquer une petite pause, et puis on va découvrir le mode d'attaque des loups, savoir un petit peu si on pourrait éradiquer ces attaques, peut-être avec des patous. On va voir tout ça dans la troisième partie d'Animag. Troisième partie d'Animag avec Eric Vizouz. Il est accompagnateur de montagne, il est passionné de nature, passionné de loups. Il nous explique un petit peu le mode de vie des loups. Donc on a vu, hein, il y a des alphas, il y a des dominants, des soumis. Il y a des loups solitaires, ça existe ça, Eric, des loups qui vivent tout seuls toute leur vie?
Il y a des loups erratiques, ça c'est certain, c'est-à-dire des loups qui sont seuls et qui cherchent un territoire. Il y a certains loups qui sont plus ou moins solitaires, qui peuvent même faire partie d'une meute sans être vraiment
dans la meute.
Très peu avec les autres membres de la meute. Mais une meute, de toute façon, si elle contient 6 ou 8 individus, elle va être toujours divisée. Enfin, pas toujours, mais la plupart du temps, elle va être divisée. C'est-à-dire il va y avoir 2 ou 3 individus dans un endroit, 1 ou 2 ailleurs, etc. Mais donc, certains peuvent être assez solitaires. Alors, mais en général, non.
Alors, ça mange quoi, un loup? On a vu que, bon, bien sûr, ça pouvait éventuellement manger des brebis, mais ça mange quoi dans la nature si jamais ça ne va pas attaquer les troupeaux? C'est quoi son mode de vie?
Alors, son mode de vie, c'est d'attaquer tout ce qui est consommable. c'est-à-dire la plupart des herbivores, Mais ça attaque aussi des sangliers, les blaireaux. Un de ses gibiers préférés, c'est le cerf.
Ah oui, carrément.
Ah oui, alors que c'est un grand animal avec de grandes cornes, hein, qui est assez impressionnant. Eh bien, c'est son gibier, un de ses gibiers préférés. Les chevreuils, évidemment, les chamois, les mouflons.
Et par exemple, un cerf, il fait comment pour l'attaquer? Est-ce qu'il y en a qu'un qui attaque ou est-ce qu'ils attaquent en meute? Comment se passe une attaque d'un cerf?
Ah ben, en général, là, ça va être en meute, ouais. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour le fatiguer déjà surtout. Mais enfin bon, c'est en l'attaquant un peu de tous les côtés, puis en essayant de le saisir à la gorge. Ça c'est typique des loups, hein, d'attaquer à la gorge, dégorger donc. Ça leur permet d'arriver plus vite. Enfin, en général, c'est ça. Une attaque, c'est avant tout à la gorge. Mais bon, ils peuvent très bien les attraper quelque part, n'importe où, surtout aux pattes, hein, pour les faire tomber, pour les arrêter. Donc ça attaque surtout la faune sauvage, la faune domestique, enfin les animaux domestiques. C'est à l'occasion, parce que c'est plus facile. Parce que il y a beaucoup plus de bêtes et que ces bêtes sont beaucoup moins agiles. Quand ils attaquent une harde de chamois ou de mouflons, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a moins de bêtes et puis ça bouge très vite.
Alors,
surtout les chamois d'ailleurs.
Ouais. Alors, est-ce que aujourd'hui on a des moyens pour protéger les troupeaux? Parce qu'en fait, là, pourquoi les gens, enfin, le loup a mauvaise presse? Parce qu'il attrape et il attaque les troupeaux. Est-ce qu'aujourd'hui, le chien, le patou, par exemple, pourrait arriver à effrayer le loup? Est-ce que des clôtures électriques? Est-ce qu'il existe un moyen ou alors pas du tout?
Si, il y a des moyens qui sont de plus en plus employés. Et bon, la mesure la plus générale, c'est le parc de nuit, avec des filets électrifiés pour protéger le troupeau près de la cabane. Et ensuite, il y a les chiens de protection. Les chiens de protection, dont le patou, qui est le berger des Pyrénées. Donc ces chiens de protection sont efficaces, puisque il y a quand même beaucoup moins d'attaques quand il y a des chiens. Ceci dit, ça n'empêche pas toutes les attaques. Il y a toujours des problèmes, en particulier dans la journée, surtout quand il y a des nuages par exemple, ou quand le troupeau se trouve dans des endroits boisés, vallonnés, enfin ravinés. Et le pire, c'est quand il y a des nuages qui arrivent là, qu'on ne voit plus à 10 mètres ou à 20 mètres, et les loups savent très bien profiter de ce genre de situation. Et donc, les chiens de protection sont efficaces. Les filets permettent d'éviter que les troupeaux soient dans des endroits éloignés sans protection. Mais bon, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident à mettre en place.
Donc,
ça a d'autres conséquences, en particulier au niveau du travail que ça demande. Heureusement, il y a des aides pour les bergers, les aides bergers, pour les éleveurs, donc, qui leur permettent de subvenir un peu à tous ces problèmes, mais il y en a toujours, il y en aura toujours, ça c'est certain. À partir du moment où il y a un prédateur comme le loup qui est très très malin et qu'il a envie d'aller à la facilité ou même plutôt simplement de jouer, parce que c'est souvent ce dont on se rend compte sur l'ensemble des attaques, hein. Alors je peux donner des chiffres, mes chiffres, c'est-à-dire
Allez-y.
Une dizaine d'années. Sur les victimes que j'ai constatées personnellement, environ 18% ont été plus ou moins consommés. Et sur un total de 57,5% qui sont tués et 42,5% qui sont blessés. Ça, ce sont les chiffres que j'ai depuis longtemps. Donc. Et dans 66% des attaques, il n'y avait pas de chien de protection.
Ah oui.
Et avant, ça allait à 80% et même plus que ça, alors qu'il y avait beaucoup moins de chiens de protection à ces époques, hein, avant, c'est-à-dire avant 2007-2005, quand il y avait très peu de chiens encore. Donc maintenant, plus ça va, moins il y a d'attaques avec les chiens, je veux dire. Mais bon, il y a quand même, toujours des attaques. Par exemple, on peut noter 30% dans des parcs de pâturage. Et moins encore dans les parcs de nuit, mais il y a toujours quand même 100 chiens de protection dans la quasi-totalité des cas. Mais donc, tout ça, ça veut dire que plus de 70% des bêtes attaquées se trouvaient en dehors d'un parc. Et les deux tiers, durant la nuit, sans protection. Parce que le troupeau s'est coupé à cause de... Il y a toujours plusieurs raisons, hein, qui fait qu'il peut y avoir toujours quelques bêtes ou une partie du troupeau qui se coupe et le berger ne s'en aperçoit pas. Et ces bêtes-là sont très souvent attaquées. C'est celles qui sont le plus souvent attaquées maintenant. Et je disais qu'il peut avoir tendance à s'amuser parce que quand il y a une attaque, on se rend compte que il y a beaucoup de tués, il y a beaucoup de blessés et il y a très très peu de consommés.
Oui, c'est ça. En fait, ils attaquent plutôt pour jouer que pour manger.
Oui, pour s'entraîner. Et puis aussi, c'est la folie de l'attaque. Il faut comprendre qu'un troupeau de moutons, ça fait beaucoup de bêtes qui s'affolent, qui tournent en rond ou qui partent droit devant. Et on a même filmé un loup qui s'est retrouvé dans un troupeau de moutons complètement affolé et il se retrouve sur le dos des moutons. Et lui aussi, il est complètement affolé. Et donc, il mord à droite, à gauche. Et je pense que c'est souvent des situations comme ça, c'est-à-dire la folie et le jeu aussi. Et voilà, donc on a des situations qui sont pas faciles à gérer. Et donc, surtout pour les bergers ou les éleveurs, le matin, en général, quand ils se rendent compte de l'attaque au lever...
Oui, c'est pas...
Tu retrouves des dizaines de bêtes parfois qui sont égorgées, qu'il faut abattre parce qu'elles souffrent et qu'elles sont pas mortes. C'est assez difficile hein, à vivre.
Eh bien écoutez, je vous propose de marquer la dernière pause de notre émission Animag et on va se retrouver pour la dernière partie dans un instant. Quatrième partie d'Animag aujourd'hui avec Eric Vissous. Je vous rappelle qu'on découvre le loup. Et Eric, pourquoi êtes-vous autant passionné de loup? Pourquoi vouloir à tout prix sauver le loup? Pourquoi avoir cette passion avec le loup?
C'est un animal qui est très particulier. C'est un grand prédateur et il a toujours été en concurrence avec l'être humain. Et c'est lui qui a permis à ce qu'on ait des chiens. Et tous les chiens descendent du loup d'après les études scientifiques. Donc c'est un animal vraiment particulier qui est un emblème de la vie sauvage, de la vie libre. Et ceci dit, donc c'est vrai que le protéger, le lui permettre d'avoir toujours sa place, ça me semble important. En même temps, il y a un autre problème qui se rajoute maintenant dans nos pays très civilisés, c'est que on a des petits éleveurs en montagne et ces petits éleveurs ont déjà beaucoup de difficultés pour survivre en général et ils sont face à une situation qui fait qu'on peut se demander si c'est pas eux qui risquent de disparaître à long terme. C'est déjà le cas depuis longtemps, hein. Il y a de moins en moins d'éleveurs, de petits éleveurs. Et ce serait vraiment dommage que on n'arrive pas à lier l'un et l'autre.
Oui.
Donc je pense qu'il y a vraiment des mesures à prendre qui font que il faut suffisamment inquiéter les loups pour qu'ils se tiennent à l'écart des troupeaux le plus possible. Bien que, comme je l'ai déjà dit, il y aura toujours des attaques, mais on peut les limiter énormément et on peut soutenir surtout les éleveurs pour qu'ils puissent continuer à être présents. c'est eux qui fournissent l'agriculture la plus intéressante actuellement. C'est pas de la monoculture, c'est pas de la culture intensive, c'est du petit élevage, ils entretiennent l'espace, et c'est eux qui nous permettent aussi d'avoir les paysages qu'on a en montagne. C'est entre autres, c'est eux aussi qui font que, eh bien, on a des alpages, on a des prairies, etc. On a un paysage qui est très très caractéristique des montagnes d'Europe. Donc c'est un dilemme entre la préservation des petits éleveurs et puis la préservation du loup. C'est vrai que c'est vraiment pas évident du tout.
Vous êtes pessimiste ou vous êtes plutôt optimiste?
Ça dépend de quel côté je me tourne. À long terme, je pense que c'est possible si vraiment on prend des mesures à tous les niveaux qui font que les éleveurs, les bergers ont moins de soucis. Maintenant, il va falloir voir comment ça se passe dans les années qui viennent, un peu plus loin que dans nos montagnes. C'est-à-dire, là, il y en a de plus en plus vers la Drôme, le Vaucluse, le Var, et puis ça va de plus en plus loin. Comment vont réagir les éleveurs dans des zones qui sont différentes au niveau du relief, au niveau de l'élevage, et au niveau de la population humaine aussi. Et comment tout ça va se mettre en place, et je vois que en fait si on a su prendre des mesures de préservation, de protection, etc. dans les montagnes, ce qui est déjà loin d'être évident, mais enfin donc on y arrive quand même plus ou moins, il n'y a pas encore vraiment de mesures à ma connaissance qui sont prises au niveau des éleveurs plus bas. Et je me rends compte que ils sont étonnés, qu'ils ne savent pas, que leur syndicat les met pas au courant, qu'il y a aucune mesure qui est mise en avant pour prévenir la présence de ce prédateur qui arrive.
Et donc ça pourrait poser problème alors.
Ah, ça pose déjà des problèmes et ça va en poser. Normalement, ça devrait en poser de plus en plus. Parce que les loups vont arriver dans des zones beaucoup plus habitées, avec des troupeaux beaucoup plus importants, avec des problèmes qui vont se multiplier. Et bon, là, comment ça va réagir, ça risque d'être très violent. Donc il faudrait prévenir. Parce que là, on a des mesures qui arrivent après coup et qui ont laissé le mal s'installer déjà. Enfin, le mal, c'est-à-dire que le loup qui arrive dans un endroit où il n'y a aucun moyen de protection qui soit pris, où les gens sont pas du tout prêts à faire face à cette présence, il s'adapte. C'est un animal qui s'adapte à toutes les situations. Et donc, il s'adapte au fait que les troupeaux sont pas protégés, donc il va aller les attaquer beaucoup plus facilement.
Mais est-ce que le loup est nécessaire pour notre écosystème? Alors, parce que je vais faire à l'inverse, est-ce qu'on a vraiment besoin du loup?
Alors, tout animal est nécessaire à l'écosystème. Il y en a qu'un qui, on se demande parfois s'il est nécessaire, c'est l'être humain. C'est vraiment lui il est complètement dans son élément et il est complètement nécessaire par rapport à la faune de n'importe quel endroit, quoi. Je veux dire, c'est son rôle, c'est d'éliminer tout ce qui est en trop, etc. Donc il a un rôle très important. C'est l'être humain qui a pris ce rôle dans nos pays, en tout cas, et pratiquement partout sur la planète. Et du coup, c'est un concurrent, ça devient un gêneur. Mais son rôle est essentiel. Enfin, son rôle est vraiment tout à fait normal et évident dans la nature. Alors, quand on se retrouve dans des zones aussi urbanisées, aussi peuplé que chez nous, hein, même dans les Alpes de Haute-Provence, où c'est pourtant beaucoup moins peuplé qu'ailleurs en France et en Europe, et en général, donc c'est quand même très civilisé. Tout appartient à quelqu'un ou est cultivé d'une manière ou d'une autre ou est prospecté. Donc il n'y a rien qui est vraiment sauvage. Il n'y a rien qui est laissé à l'abandon complètement. Et le loup au milieu de tout ça, c'est vrai qu'il a une place difficile faire valoir.
Bon, et bien en tout cas, Eric, je pense que le message est bien passé. Il y a une petite tradition dans notre émission Animag. Le meilleur souvenir que vous avez dans la montagne avec avec les loups, peut-être, ça serait lequel, sans trop réfléchir comme ça?
Oh, ben sans trop réfléchir, là, c'est la dernière fois que j'ai fait du hurlement provoqué la nuit. Ça se passe la nuit en été pour savoir s'il y a des petits qui sont nés dans une meute. Donc on se poste à certains endroits bien précis et on fait ça avec tout un protocole, hein, avec des heures, enfin une façon de faire très particulière. Et là, je m'étais posté dans un endroit où j'étais quasiment certain que c'était le meilleur endroit par rapport au territoire de loups que je connaissais bien, et j'ai commencé à hurler, donc, et tout de suite, mais alors j'ai même pas fini de hurler, premier hurlement, j'ai eu une réponse de la meute et des petits qui étaient présents, mais alors tout de suite, et puis alors vraiment très près et très fort.
Alors, que juste comme ça, pour terminer l'émission, il nous reste quelques secondes, ça fait quoi le cri d'un loup? Vous pouvez nous le faire?
Ferme, ça va être...
Si, mais allez-y, vite fait, mais très, en deux secondes, quoi. C'est juste pour savoir un peu comment ça fait.
Ah, ben, ça fait un peu comme un chien qui hurle à la lune, là, ou quelque chose comme ça. C'est un espèce de... Aouh! Et ça fait les loups, mais les chiots, j'allais dire, oui, justement, les louveteaux font un peu comme des chiens, des chiots, c'est-à-dire qu'ils jappent. Et c'est pour ça qu'on arrive à les reconnaître.
Alors, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu dans notre émission Animag pour nous parler du loup.
Moi, je vous remercie.
Et puis, je mettrai en lien, bien sûr, votre site internet. Merci beaucoup, Eric. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'Animag, votre émission animalière.